La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Made in France. À la verrière à Bruxelles, Jean-Luc Moulin, en angle mort. Au Wills à Bruxelles, Sadan Afif, parole.
C'est des robots, donc ça veut dire qu'ils marchent tout seuls. Constitués par une plateforme mobile qui doit faire 80 sur 120 au sol, montée sur 6 roulettes, dont 2 motorisées, électriques. Et qui porte verticalement donc 2 miroirs latéraux de 120 sur 180 et qui se déplace dans l'espace tout droit jusqu'à ce qu'il rencontre soit un mur, soit une personne, soit l'autre robot, auquel cas il s'arrête. Ils se font, je dirais, d'une certaine manière des politesses et ils repartent en avant, en arrière, ils tournent, ils remplacent des murs dans le fond. Compte tenu qu'ils se déplacent parfaitement verticalement, en parfaite ligne droite, en fait, ils constituent des murs virtuels.
Avec, à la verrière, Jean-Luc Moulin, Guillaume Desanges et les voix de Maud Narfin, Laurent Mignon, Audrey Cotin.
L'image qu'on voit dedans est un mur virtuel. Donc c'est une manière de déstructurer les murs réels pour qu'on voit enfin les œuvres. Indépendamment des expositions.
Au Wills à Bruxelles, Sadan Afif, parole. Avec Zoé Gray, Valentin Noiret et Sadan Afif.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
le monde invisible.
Eh bien, l'artiste, donc Jean-Luc Moulin, qui est un artiste que je répète ce que je disais tout à l'heure, mais que j'ai lu dernièrement dans un communiqué de presse, que c'est un artiste qui avait eu une grande visibilité à l'international et en France. Et en fait, je pense l'inverse. Je pense que c'est un artiste qui m'a toujours étonné du peu de visibilité qu'il avait par rapport à l'intensité et la qualité du travail. Vraiment, je le dis parce que ça fait plusieurs années que Jean-Luc, évidemment, est dans le milieu de l'art contemporain. D'abord reconnu comme photographe, ce qui a été assez réducteur, puisque finalement, je me suis, moi, aperçu aussi assez tard que voilà, son travail ne se limitait pas du tout à la photographie, mais il y avait d'abord un travail de dessin et de sculpture qui a été montré beaucoup ces dernières années, plus ces dernières années, on va dire, en tout cas dans son travail.
Qui a été montré plus, tout simplement, à cause de l'apparition de la photographie numérique.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait moins de photographies au point même d'annoncer que j'arrêtais d'en faire parce que je pratiquais la photographie analogique. Mais en même temps, je suis très intéressé par le passage au numérique, c'est-à-dire par un changement de monde dans lequel, en fait, le numérique travaille beaucoup plus les objets que les images. Il y a eu un débat au sein de la photographie numérique, analogique, c'est un débat stérile. Par contre, comment on produit aujourd'hui les objets ? À travers des calculs, à travers des computers et des programmes 3D, totalement mystérieux pour le grand public, ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que justement, les objets étant ce qui est entre les hommes, et ils sont faits pour ça d'ailleurs, hein, pour médier la relation, c'est quand même pas mal de ne pas laisser aux carrossiers industriels, aux fabricants de cosmétiques, le seul usage de ces machines. Sont malheureusement assez chers, donc il me semblait important au sein des objets qui sont aujourd'hui conçus qu'un espace critique puisse s'engager avec.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Il faut toujours s'intéresser à ce qu'on ne comprend pas. Parce que s'intéresser à ce qu'on comprend, très rapidement, ça trouve sa fin. Hein.
Absolument.
Donc s'intéresser à ce qu'on ne comprend pas, c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est pour ça que c'est très divers, parce qu'il y a tellement de choses, et je me rends compte aussi en vieillissant, que je comprends de moins en moins. Mais je fais de plus en plus. Donc faire comble le déficit de compréhension. Parce que c'est une nature de savoir qui est corporelle, si tu veux, qui s'est embodied, incorporée.
Dans la matière.
Voilà. Qui s'est matérialisé en tous les cas.
Et donc c'est vrai que par rapport à cette question, là on le voit, de la poésie balistique, enfin ce que j'essayais d'aborder en tout cas dans ce cycle, cette question d'un rapport à l'art programmatique et intentionnel qui finalement en arrive à des formes qui viennent masquer ce protocole, voire pratiquement peut-être le contredire, ou en tout cas même le brouiller serait peut-être un peu trop faible, vient le casser aussi, le trouer, absolument, voilà, ça serait des mots très, très déridiens comme ça. Eh bien, je trouvais qu'il y avait ça dans le travail de Jean-Luc, qui était pour moi une évidence, et c'est pour ça que Jean-Luc était dans la première exposition aussi du cycle Poésie balistique, avec ses pierres trouées.
Poésie pour l'intuition, balistique par l'intention, balistique parce qu'il y a un programme, poétique parce que cela déraille, poésie par la distance, balistique par le choc, poésie parce qu'insaisissable, balistique parce que saisissant.
Couper n'est pas jouer.
J'aimerais bien annuler les murs. Enfin, tu lui dis, voilà, comment on peut effacer les murs à travers l'idée d'un reflet qui viendrait poser par-dessus le mur un autre
reflet
mur.
Qui est ce qu'on appelle une image virtuelle.
Voilà.
Donc, qui aujourd'hui a une actualité bien plus grande que simplement les miroirs.
Voilà. Maud Narfin, de Paris. Je travaille avec Guillaume Desanges sur l'exposition.
Entre les œuvres, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est de l'espace ? Est-ce que c'est de l'air ? Est-ce que c'est une rumeur ? Est-ce que c'est de l'information complexe ? Est-ce que c'est des réseaux sociaux ? Mais en tous les cas, tout ça est dans l'air. Et que donc, il n'y a pas de vide entre les œuvres. Il y a des choses qui sont dans l'air. Mais dans l'air du temps, dans les mentalités. Et il faut composer avec ça aussi. Considérant qu'une œuvre, c'est pas un lieu pacifié, mais un lieu en conflit, j'ai très souvent utilisé, par exemple, des fers à béton qui sont chromés, c'est-à-dire le pire et le meilleur ensemble. Et là, le goudron, je dirais que c'est d'une certaine manière considéré comme le pire, la peinture à l'huile comme le meilleur. Ok, mais mélangeons et voyons ce que ça donne. Évidemment, mélanger le pire et le meilleur, ça peut se métaphoriser. Hein.
Mais là, c'est un mélange que tu fais par couche.
Et dans ce cas-là, il est par couche. Et même pire, le pire est le fond. Et le fond, évidemment, remonte. Dans tous les cas, hein, que tu fasses de l'humour ou de la peinture, le fond remonte.
Ou de la politique.
Et c'est une manière de le donner à voir, mais sans le figurer ou sans le désigner proprement comme politique. C'est-à-dire que je pense que s'il n'y a pas un conflit dans l'œuvre, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Elle décore. Bon, tu me diras qu'il y a des gens pour qui la décoration est essentielle. Pas pour moi. Donc, oui, une œuvre n'est pas un lieu en paix.
Poésie balistique.
Ça a été beaucoup utilisé dans la sémantique militaire pour l'art de la balistique. C'est l'art de toucher le plus directement possible ou de calculer en tout cas les points dont ça a été touché. Et donc voilà, cette exposition-là, pour moi, la balistique, c'est ce qui touche directement, de manière un peu frontale et directe, et qui ne passe pas par des circonvolutions les plus compliquées. L'idée d'accoler ces deux mots poésie balistique, c'était un peu cette idée-là, quoi. Comme une espèce d'oxymore de ce que j'aime dans la poésie et dans l'art, d'ailleurs, c'est ce rapport à la balistique, en fait, je crois.
Coup de feu.
Leur vis-à-vis, je dirais, qu'on retrouve par une, deux, trois, au moins trois, quatre fois, qui sont des peintures qui, elles, ne sont qu'à l'huile et qui servent, en fait, de témoins colorés pour voir, dans les 50 ou 100 prochaines années, comment vont bouger les peintures à goudronner. Mais il faut se dire que le temps de transformation, c'est une bonne cinquantaine d'années.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit...
Avant que ça craquelle, avant que...
Elle bouge.
Elle bouge.
Enfin, ces objets. Alors, est-ce que ça ne sèche jamais ?
Je pense que ça ne séchera pas.
Quelqu'un m'a posé la question
ça,
tout à l'heure.
Ça reste ce qu'on appelle une surface amoureuse. Elle colle, mais sans attacher.
Et est-ce qu'elle va bouger jusqu'au bout ?
Elle va
bouger. Mais quand même, elle bouge moins.
Et elle bougera d'autant différemment que selon ton climat. Tu mets ça sous les tropiques, il va couler verticalement dans les 8 jours. Je pense qu'ici, malgré le chauffage, ça ne devrait pas trop bouger. Entre ce que tu vois sur les champignons, qui sont des choses qui s'opèrent en une nuit, mais une nuit qui est concentrée autour de la question de la mort, de la mort du champignon, des choses qui sont sur des évolutions de 50-100 ans, et des choses qu'on voit se déplacer en diagonale en l'espace de 10 minutes. Donc on est quand même dans des rapports temporels aussi bien écrasés en couches que je dirais dans un ordre de la durée, qui sont quand même assez complexes. Sans oublier qu'en fait, le fixe propose des natures de temps bien plus variées qu'un objet mobile. Parce qu'un objet mobile, ou une, comme par rapport au temps, ne peut s'installer que dans la durée. Alors que le fixe peut s'installer dans des temps en boucle, des temps réversibles, d'autres natures justement d'ordre temporel que celui de la durée. Et c'est pour ça que le fixe m'intéresse.
Poétique parce que adressé à personne, balistique en touchant chacun. Poétique comme un coup de dé, balistique comme un coup de feu.
C'est la cueillette des champignons. Tu cueilles tes champignons en général le matin, hein, puisque c'est là qu'ils viennent. Tu coupes le pied au ras du chapeau. Tu poses ton chapeau sur un papier. Tu attends 24 heures. Et dans ces 24 heures, le champignon qui sent qu'il a été coupé, qu'il est mort, ne va avoir qu'une envie, c'est de se reproduire. Et donc va projeter le maximum de spores qu'il a en lui. Et ça en une nuit. Hein. Et donc ces spores marquent le papier, et font plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie puissance de souffle. C'est-à-dire quand il y a une petite ouverture dans le bord du champignon, il va souffler en dehors de lui-même. Ce qu'on voit, c'est pas un champignon, c'est une communauté de champignons soudée organiquement par le souffle. On est en présence de ce qu'on appellera un collectif, une communauté, un commun, une meute, une horde, une bande de potes.
Quand vous enlevez le champignon, est-ce que ça continue à bouger ou bien est-ce que c'est fixé?
Je le fixe.
Pour que ça ne bouge plus.
C'est assez curieux parce qu'au moment où les spores se déposent pas que les spores, se déposent aussi des tout petits vers. Par exemple, vous voyez cette trace qui est là, est faite par les vers qui évidemment veulent se sauver aussi. Des traces comme ça sont faites aussi par l'effondrement de l'eau du champignon sur la feuille.
Ah, il y a de l'eau ici.
Eh bien oui, dans l'eau du champignon. Et la première fois que je l'ai fait, j'avais pas de fixatif. Et donc, j'ai posé mes feuilles sur un lit d'eau, et c'est par osmose de l'eau à travers le papier que les spores se sont fixées par en dessous, comme un colorant. Je donne le processus, racontez-le, que les enfants le fassent, que tout le monde le fasse. Oui. C'est formidable, mais il n'empêche que le choix, non, de l'œuvre, parce que pour vous montrer celle-là, je n'ai pas fait que celle-là. Il y en a 40 derrière. Donc la question du choix est de même nature que le choix d'une photo dans une planche contact.
Est-ce que vous variez le temps d'exposition des champignons? Vous avez pas du tout.
C'est une nuit. Et c'est assez curieux parce que dans la journée, d'ailleurs, ils ont tendance à pas vouloir cracher. Ils crachent dans la nuit. Je voulais voir, comme tous les gamins, est-ce que l'escargot va laisser une trace s'il traverse une aquarelle? Réponse, non. C'est étonnant. Il n'emmène absolument rien et il glisse sur la surface de l'aquarelle, il ne la touche pas. Par contre, les escargots aiment le papier. Et donc, ils bouffent le papier. Et j'ai fait des feuilles passées au graphite noir, laissées dans le gazon, les escargots dessus. Et ils mangent le papier, ça te fait une dentelle, mais extraordinaire. Voilà. Alors après, quel est celui qui fournit la bonne figure, qui devient signifiante ou lisible? C'est là que le choix est essentiel, en fait.
La balistique, cette intention de cibler, cette intention presque que militaire, d'avoir une cible, de viser correctement.
Faudrait comment?
Cotin. Je vais vous donner une carte.
Dans cet espace, j'ai associé ces œuvres, pour le coup balistiques, mais au sens littéral du terme, de Thomas Sirjeune, avec cette œuvre de Jean-Luc Moulin.
Mais bon, le Saint-Suaire, Et de toute façon, on est d'accord, même si c'est une mythologie qui s'est greffée dessus, c'est une mythologie qui parle de ça. Et d'ailleurs, dans les maisons, quand il y a des traces d'humidité, de champignons, donc, sur les murs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on voit des choses. On voit des gens, on voit des monstres. Donc, ça a toujours été l'interprétation des taches, et donc les taches d'humidité champignonnesques. Il semblerait aujourd'hui que les champignons, que le même individu peut nous appartenir à tous les deux. C'est-à-dire que le même individu peut vous couvrir l'intérieur de l'organisme et couvrir le mien, et on ne voit rien ni l'un ni l'autre. Et c'est le même individu, avec des surfaces d'existence sur des kilomètres carrés. Intérieur et extérieur. Bon, c'est quand même génial de se dire qu'on a peut-être les mêmes champignons, le même individu, alors qu'on se considère comme deux individus séparés.
Donc Jean-Luc Moulin, c'est un photographe, enfin photographe qui vient de la photographie, mais il travaille aussi la sculpture. Et Jean-Luc Moulin est un artiste auquel j'ai beaucoup pensé en travaillant cette question de la poésie balistique. Jean-Luc Moulin, c'est un artiste qui est extrêmement informé, pas que de l'histoire de l'art d'ailleurs, de l'histoire sociale, politique et culturelle, qui a un réseau de références extrêmement dense et précis, et qui en fait n'en parle jamais.
Quand on parlait qu'une œuvre est un lieu de conflit, c'est d'abord le lieu de conflit de la vie et de la mort. Et il me semble que les artistes sont en partie là pour ça. Parce qu'aujourd'hui, l'espace social, manifestement, la mort, il ne faut surtout pas ouvrir sa gueule.
Balistique parce que c'est tranchant, poétique parce que c'est troublant.
C'est une lame de cutter qui est plantée directement dans le mur, à hauteur de la simèse, donc à hauteur d'œil pratiquement, qui est plantée de manière à ce qu'elle reste horizontale, comme un plongeoir, sur lequel est posée une balle de mitraillette. Voilà, c'est tout. Comme une petite vierge ou une apparition, comme ça. Mais en même temps, sa forme, comme tout outil, sa forme évoque sa fonction. Et donc, telle qu'elle est là, elle traverse déjà l'espace. De même que la lame coupe l'espace, même quand elle est absolument immobile. Un ordre, il y a des ordres. Par contre, il n'y a pas de désordre sans un contre-ordre. Il y a tout simplement plusieurs ordres. Et il y a autant d'ordres que vous pouvez organiser des éléments avec des opérateurs. Voilà. Et donc, il n'y a pas de désordre. Mais du coup, il n'y a pas non plus de raison de hiérarchiser ces ordres. Or, on est bien dans une société qui a hiérarchisé l'ordre au point de faire naître l'ordre policier et la barbarie. Donc une violence organisée que moi j'appelle la barbarie, qui n'a rien à voir avec la violence elle-même. La violence elle-même, elle peut être parfaitement fixe, c'est un acte mental, c'est une volonté de vie. Il a des conditions, mais des conditions basiques, une tête, deux bras, deux jambes, il fait caca le matin, etc. C'est-à-dire, nos conditions d'artiste sont les mêmes que celles de tout le monde, et il n'y a pas d'art sans conditions, c'est vachement important. Alors que la plupart des gens s'imaginent que l'artiste est libre par essence. Non, non. Le travail est toujours le même, c'est l'émancipation. Donc voilà, il n'y a pas de liberté acquise, il n'y a que des libertés qu'on se donne. Et s'imaginer qu'une liberté est définitive, ça c'est une grosse erreur. On va vous la retirer bientôt. Et tous les jours un peu, ils vont essayer. Donc c'est un combat tous les jours.
Et le choix des couleurs, sinon, c'est...
Bon, il y a toutes les couleurs.
C'est subjectif, quoi, ça reste.
Oui, oui, il y a des éléments subjectifs. Mais pas complètement. En fait, le rouge est une laque carminée. Les laques carminées, on sait ce que c'est la dernière couche, en fait, que vous mettez sur un corps pour qu'il devienne un peu tenu. Dans l'histoire de la peinture, On a des jaunes qui sont des jaunes de chrome. Donc j'ai pris du jaune de chrome parce que justement c'est actif. C'est d'abord une chimie très active. Le bleu de Prusse qui est là-dessous a été choisi justement contre l'histoire académique de la peinture. On sait très bien que le jaune de Prusse, le bleu de Prusse est une couleur toxique qui va contaminer tout le tableau. Mais ça, dans une durée qui peut aller jusqu'à 100 ans. Hein. C'est-à-dire ce tableau-là, il y a une couche de bleu de Prusse dessous, deux couches de jaune par-dessus, il a déjà bougé. Hein. Et à terme, il va devenir bleu. Mais ce terme, on ne le verra pas. C'est-à-dire il deviendra bleu, on sera largement mort. Tous. Voilà. Et donc, c'est plutôt des choix de la couleur qui sont liés à leurs usages dans l'histoire de la peinture. De la même manière, ce vert est très proche, en fait, de ce qu'on appelle la terra verde, qui était en fait la manière de peindre les corps. On faisait le fond. En fait, c'est quand même assez étonnant dans l'histoire de la peinture. On commençait par peindre un corps mort. Vert. Vert cadavre. Et on mettait les carnations par-dessus ce corps. Et effectivement, si vous mettez des vermillons ou des garances transparents sur ce vert, vous arrivez à une couleur qui est extrêmement proche de la couleur des peaux, dans les ombres et les lumières.
L'œuvre multiforme de Sadan, nom dénué d'humour, fait appel au savoir-faire d'artisans, de musiciens, d'écrivains.
Made in France, au Wills à Bruxelles, Sadan Afif, Parole, avec Zoé Gray, Valentin Noiret et Sadan Afif.
Dans des projets qui remettent en question le concept même de l'œuvre d'art unique ou du créateur individuel. Il provoque à la fois l'effondrement et l'expansion de la notion de paternité créatrice en recourant à des chaînes de collaboration qui fonctionnent comme des boucles de feedback ou des chambres d'écho. En effet, depuis 2004, il commande régulièrement à des artistes et à des écrivains des paroles de chansons inspirées de ses œuvres. Ces textes sont devenus un matériau clé, la verbalisation de ce qui se passe dans l'esprit du regardeur.
On a une exposition qui est plutôt rétrospective, c'est-à-dire des objets qui ont produit depuis une quinzaine d'années à travers un processus très simple de commandes de chansons à partir d'œuvres qui ont produit un ensemble de textes très conséquents maintenant. Ces textes sont vraiment une base de travail qui permettent de mettre en perspective le travail ensuite, de lui donner toujours un devenir. On n'est jamais face à une œuvre achevée grâce à ce système que je suis maintenant un petit peu comme une partition.
Pouvez-vous décrire ce qu'on voit là ?
Comment ?
Décrire ce qu'on voit.
Alors on voit une grande baie vitrée qui sépare le lieu d'exposition d'un studio d'enregistrement que je vais conduire chaque jour de 14h à 17h avec n'importe qui voulant s'inscrire pour jouer avec moi. Et donc le principe, c'est qu'on va interpréter des paroles qui ont déjà été écrites par des amis de l'artiste Sadan Afif sur ses œuvres, et donc à nous de les interpréter en musique, quoi. Donc en fait, de là où on nous entendra presque pas, hein, c'est vraiment bien isolé. Donc les gens nous verront à l'action, mais n'entendront que le lendemain quand j'aurai fait les mix de la veille qui seront diffusés en bas.
Et de décrire les instruments qui sont là ?
Alors on a On a des guitares, on a des percussions diverses, il y a une batterie, des bongos, d'autres petites percussions, on a un piano droit, on a un synthétiseur, un petit clavier synthétiseur un peu rigolo pour enfants, divers amplificateurs, donc les gens peuvent aussi venir avec les instruments qu'ils souhaitent. Mais voilà, on a cette base un peu classique de studio déjà sur place. Quoi.
Le studio s'est imposé comme métaphore très littérale. Ce sont des questions qui m'intéressent énormément.
Et donc, votre rôle, c'est d'enregistrer et voilà. De mixer.
C'est ça. Alors, parfois, je serai assisté d'amis à moi qui seront plus donc sur l'aspect technique d'enregistrement, des micros, machin. Et moi, mon rôle, ce sera principalement de guider les gens. Quand c'est pas des musiciens, souvent, on me donne des idées abstraites. On a d'un langage autre que le langage d'un musicien. Et à moi de m'adapter à ça pour proposer des solutions, ouais, voilà, de suggérer, quoi. Après, moi, je peux jouer aussi un peu, mais c'est pas le but. C'est de faire jouer les gens, quoi.
Et votre métier, quel est-il ?
Bah, c'est celui-là. Pour l'instant, je viens de sortir d'une école d'art. Donc
Vous êtes musicien ? Plasticien ?
Voilà. Plutôt musicien, mais ayant mis un pied dans le monde de l'art contemporain, avec le son, quoi. Mais ça, voilà. Ma pratique à moi, ça a souvent été d'organiser des jam sessions comme celle-ci, dans des contextes un peu différents. Hein, dans les bois, dans des caves, dans des caravanes. Mais voilà, c'est l'aspect social du jam qui m'intéresse.
Beaucoup de temporalité dans cette exposition, on part de très loin, on peut partir d'une quinzaine d'années pour arriver à des musiciens ou des tout à chacun d'ailleurs, le public est invité à venir interpréter littéralement l'exposition.
Et à vos yeux, qui est l'artiste avec qui vous collaborez ?
C'est d'abord un de mes tuteurs à l'école en fait.
À quelle école ?
À l'école à la Sandberg Institute à Amsterdam. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, moi, je découvre aussi son travail au fur et à mesure de notre collaboration. Et je me rends compte que là, c'est un peu des extensions de projets.
Par un dispositif à double niveau de lecture, parole met en scène cette question d'interprétation essentielle à la pratique de Sadam. Une partie rétrospective réunit 10 installations importantes des 15 dernières années, ayant chacune généré des textes de chansons.
Un conteur, un raconteur, un magicien, un performeur, un jazzman. Oui, oui. Quelqu'un qui aime bien jouer ensemble avec des gens aussi.
Une sorte de Frank Zappa, des arts
plastiques. Oui, peut-être. Mais peut-être d'une version un peu plus conceptuelle. Même si Frank Zappa était très influentiel, je pense que le travail de Sadam s'inspire aussi d'une tradition un peu plus conceptuelle dans son début.
À Zoé Gray, à qui je demandais si votre démarche, à mes yeux en tout cas, n'apparaissait pas telle qu'une sorte de Frank Zappa des arts plastiques. Elle me disait plus conceptuel.
Paradoxalement, bon, je m'intéresse à la musique comme beaucoup, mais ce n'est pas ce qui est au cœur de mon travail. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans la musique, c'est plutôt sa production. Et aussi, avec quelle simplicité on peut dire que des choses peuvent être aussi discursives, finalement. Tout le monde s'accorde à dire qu'un texte de chanson peut parler des fleurs, de la mer, de l'amour. Alors pourquoi pas d'une œuvre d'art ? Et moi, ça me permet de déconstruire à travers des processus de production musicale, finalement, la façon dont une œuvre d'art existe d'abord, peut produire un premier commentaire, ou en tout cas une première réaction sur elle-même, et ensuite, cette même chose peut devenir encore autre chose à travers une interprétation, etc. Donc ce qui m'intéresse plus, c'est que le pouvoir, en utilisant une forme populaire, que tout le monde peut comprendre, c'est de rappeler que tout le monde doit faire cet effort. Face à une œuvre, quelle que soit l'œuvre, un livre, il y a un effort à faire, il y a une action à avoir, il y a une responsabilité du regard. Ce n'est pas de la musique, comme dirait Magritte. Hein. C'est plus un support pour m'aider à représenter des choses plus complexes à représenter, comme aussi qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du regardeur quand tu fais le tableau, par exemple, ou des choses de cet ordre-là.
C'est quelqu'un qui était beaucoup inspiré par des artistes tels que Marcel Duchamp ou André Cadéret, qui a appris et puis détourné les systèmes que ces artistes ont créés. Méthodologie qui permet à Sadana Fif d'aller plus loin, de continuer à produire. Il fait aussi des sortes de boucles de feedback. Je pense que au début, ses références à la musique pop, à l'esthétique du musique pop, le fait qu'il intègre souvent des amplis, des guitares, des choses comme ça, ça venait aussi d'une sorte de passion de jeunesse pour la musique. Mais la musique lui permet aussi d'utiliser cette idée d'une pensée systématique qui laisse de l'espace aussi pour l'improvisation. Et je pense que c'est cette mélange de structure et être déstructuré, ou de contrôle et d'ouverture, que je trouve fascinant dans le travail.
Mais aussi un art, me semble-t-il, ou une recherche de la loi du moindre effort.
Ah non, ne trompez-vous. Je fais très peu de mes mains. J'ai un copain qui m'a dit l'autre jour que j'étais pas un metteur en scène, mais un metteur en œuvre. C'est-à-dire, ça demande quand même d'être très 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 impliqué, en fait, ce type de... J'écris les textes de commande, mes amis. Il y a des endroits qui sont des endroits de l'atelier qui sont invisibles, c'est un peu la magie des choses, mais qui demandent énormément d'efforts pour pouvoir arriver à ce type de résultat. Plus, évidemment, l'inconnu de techniques qu'on ne maîtrise pas, mais qui me semble... Je me sers beaucoup de savoir-faire, parce que ça me semble plus judicieux, finalement, d'utiliser des savoir-faire de gens qui les maîtrisent, qui les possèdent. Et puis aussi, ces savoir-faire, comme la façon dont je les utilise, sont représentés dans le travail. Ce ne sont pas que des outils pour... ils font partie du sens de l'œuvre. Et donc ça, ils sont choisis sciemment. Et donc tout ça, c'est des questions vraiment de mise en œuvre de quelque chose.
Et donc, c'est un artiste qui vient d'où ça ?
Alors, il est français, il est basé à Berlin depuis 15 ans, je crois.
Valentin Noiret. Enseigne en Hollande ?
Il enseigne un petit peu en Hollande, là où j'étais. C'est un cursus un peu particulier, c'est pas vraiment des professeurs qu'on a, c'est des artistes comme lui qui viennent voir notre travail. Conseiller, mais il est surtout occupé avec son studio, quoi.
Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est comment il revisite ses propres œuvres, ses propres projets, des fois avec des années et des années d'intervalle, et qu'il réactualise le travail, mais tout en évitant toujours que ça devienne trop fermé ou que ça fait référence que à lui ou que à ses propres façons de penser. Je pense que le fait qu'il inclut toujours d'autres voix dans ses projets lui permet une façon de repenser les choses d'une manière très engageante, très fraîche aussi.
Sadana Fif, vous évoquiez cette question de l'art pariétal sur lequel vous méditez.
Oui, ça m'intéresse beaucoup, l'apparition de l'art. Qu'est-ce qui fait la différence entre la nécessité absolue de vivre que nous sommes des animaux, on pourrait se contenter de bouffer, de se reproduire, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment apparaissent des formes de cet ordre-là ? Pourquoi ? À quoi elles servent ? Parce qu'elles ont quand même une fonction, en tout cas une fonction... même si l'œuvre d'art n'est pas un objet utile, enfin en tout cas à valeur utilitaire comme une chaise, mais elles ont quand même une fonction dans nos sociétés. Quelle est cette fonction? Comment on les perçoit? Comment elles apparaissent? Ça, c'est toutes les questions qui sont derrière mon travail. C'est celles qui m'animent. C'est pas de faire un truc rouge ou un machin, ça je m'en fous. C'est ce qui m'anime plus, c'est mécanique d'apparition de l'œuvre, leur interprétation, leur intégration dans des communautés humaines, ça m'intéresse. Et évidemment, l'art pariétal est très très touchant à ce niveau-là.
Oui, et vous dites aussi que cette question nous fait humanité, c'est-à-dire c'est celle qui nous relie.
C'est produit du lien. C'est produit du lien dans des communautés données. Alors, un peu fragmenté aussi, puisque toutes les communautés ne réagissent pas au même art, mais de toute façon, la mécanique elle-même, je ne crois pas qu'il y ait des communautés sans art, donc à tout niveau, même ce qu'on appelle l'art populaire produit déjà une forme supérieure à la basse nécessité sur laquelle on pourrait rester en fait. Hein. Et donc voilà, donc tout ça, oui, voilà, tout ça, pourquoi hein. C'est un peu comme la question de Dieu ou de la mort. Hein. C'est pourquoi on fait des choses comme ça. C'est des questions un peu d'ordre métaphysique à la fin. Mais un travail comme ça alimente, hein, met en forme, très, de façon grossière, parce qu'évidemment, on ne peut pas rentrer dans l'esprit des choses, mais alimente et donne des formes à ce type de questions. Enfin, j'espère.
Cette idée aussi de s'échapper de la création singulière, de la création seule dans son atelier, cette idée romantique de l'artiste qui souffre tout seul, qui est toujours un peu l'image cliché de l'artiste, de montrer qu'en fait l'artiste aujourd'hui est souvent beaucoup plus dans un réseau d'échanges, d'idées, d'inspiration, ça évite une sorte d'hierarchie. Pour Sada Nafif, l'artiste n'est pas plus important que l'artisan, que le musicien, que le public. C'est vraiment cette sorte de égalité et échange que je trouve motive le travail.
Quelle est la relation entre une audience et une exposition? Qu'est-ce qui se passe? La mécanique première, c'est l'interprétation. Pourquoi? Parce que je m'intéresse énormément à des questions fondamentales sur l'art. Pourquoi on fait de l'art? Quelle est la destination des œuvres d'art? Comment elles apparaissent, comment elles sont tout d'abord étrangères. Hein, donc ça ramène à des choses très importantes comme les processus d'intégration, les processus qui sont en œuvre à beaucoup de niveaux de la société. L'œuvre d'art a besoin de notre regard pour petit à petit être apprivoisée et intégrée. Et ensuite, ce sont des profonds facteurs de lien dans des sociétés. Elles nous permettent ensuite de développer un... Alors je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, imaginaire collectif, mais en tout cas, qu'une communauté commence à vivre et à être liée grâce à des objets de cet ordre. Et moi, je m'intéresse à ces questions premières, hein, comment apparaît l'art. Je regarde beaucoup la peinture pariétale, par exemple. Pourquoi, à un moment, les gens se sont mis à faire de l'art. Et ensuite, aujourd'hui, je m'intéresse évidemment à cette question qui me semble très importante, dans ces processus d'intégration de l'œuvre, une question qui a été parfaitement nommée par Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du regardeur quand il fait le tableau.
Pouvez-vous décrire ce cercueil en forme de centre Pompidou?
En 2009, Sada Nafif a gagné le prix Marcel Duchamp. Lui est offert une exposition au centre Pompidou, comme gagnant de ce prix. Ce prix qui est un peu le prix prééminent de l'art contemporain en France. Et pour ce projet, il a décidé d'imaginer une installation qui parlait de ce lieu dans lequel ça s'est installé. Il a réfléchi, il s'est souvenu de ses expériences en tant qu'adolescent et jeune homme, quand il avait découvert l'art, et en grande partie grâce au Centre Pompidou. Et comment il était vraiment impressionné par ce site, par cette institution, par son architecture, et par comment ça a changé complètement ce quartier de Paris, non sans... scandale et questionnement, mais comment ça a changé vraiment ce quartier dans un lieu très ouvert, très vivant, où il y avait beaucoup de gens qui utilisaient le Centre Pompidou aussi comme une plateforme. C'était pensé comme un nouveau type de musée où le public et l'espace public étaient intégrés au sein du musée et où on voulait présenter des formes très expérimentales de création contemporaine et qui est déjà pour un musée assez complexe parce qu'un musée en soi, c'est une institution pour préserver des choses, pour conserver des choses. Donc il était intrigué et très, très interpellé par cette institution et sa façon de fonctionner. Et donc, il a décidé de prendre ça comme point de départ pour son projet. Mais au fil du temps, avec le fait que maintenant, il était l'artiste invité à présenter son travail dans ce musée, il se posait plus de questions. Il regardait aussi le musée avec un regard un peu plus critique, pas seulement le Centre Pompidou, mais tous les musées. Il réfléchissait sur cette tension qu'il y a historiquement entre les avant-gardes et les musées. Cette question du comment coexister le présent et le passé dans une institution. Il regardait aussi, il considérait l'histoire des expositions qui a eu lieu au Pompidou. Entre autres, Magicien de la Terre en 1999, une exposition très importante, mais assez controversée, à l'époque et encore plus depuis, qui présentait pour la première fois d'une manière au grand public un mélange de pratiques venues des artistes occidentales et non occidentales, et qui les présentait d'une manière égale. Mais évidemment avec référence à toute cette histoire de l'influence du non-Occident sur la modernité européenne. Une série de choses qui étaient présentées dans Magicien de la Terre, c'était des cercueils fabriqués en Ghana. Et ils étaient présentés comme des œuvres d'art. Et au Ghana, il y a une tradition d'enterrer dans des cercueils qui font référence à leur vie, qui sont des symboles qui représentent leur passion ou leur profession, quelque chose qui sont une sorte de status symbol, mais aussi qui sont des œuvres d'art, qui sont sculptées en bois et qui peuvent ressembler à n'importe quoi, à n'importe quel objet. Et donc, ils faisaient référence à cette exposition et à cette tension entre les arts africains et la modernité, et notamment Picasso, Braque, l'avant-garde français. Et donc il a décidé de commander un cercueil en forme de Pompidou. Donc une forme qui se prête pas mal à être un cercueil, parce que c'est un rectangle avec des dimensions qu'on peut imaginer un cadavre dedans. C'est un objet assez remarquable, c'est très artisanal, il y a des éléments très drôles. Les tubes d'escalateurs sur le bâtiment sont rendus en bouteilles en plastique. C'est très détaillé, il y a beaucoup d'humour aussi dans sa fabrication et dans sa présentation. Et donc, Sadan a intitulé la pièce « Anthologie de l'humour noir », d'après l'anthologie d'André Breton, du même nom, qui était aussi le premier ouvrage à utiliser ce terme « humour noir » comme un terme pour parler de cette humeur mélancolique, satirique, une phrase qui est maintenant devenue très courante. Il a présenté le cercueil au milieu de cette grande galerie au Centre Pompidou, et il a invité, comme depuis 2004, il fait à presque chaque projet, un groupe d'amis, d'artistes, d'écrivains, à écrire sur cet objet, sur cette idée.
Une forme d'art est double en général. Elle a une forme matérielle, à mon sens. Et puis, elle est aussi construite d'une forme immatérielle qui est faite de toutes les projections des gens qui décident de la regarder. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou pas bien. C'est la façon dont on la regarde et la façon dont on projette quelque chose avec nos propres mots. Les textes de chansons sont une illustration de cette mécanique. Et ensuite, à partir des textes de chansons, je peux donc développer des formes performatives qui mènent à des idées comme le studio, qui sont vraiment littéralement une façon d'interpréter les œuvres à travers des regards, des mises en lumière différentes qui ont été données par d'autres auteurs. Donc on est dans des chaînes comme ça, qui peut-être de façon un peu grossière, parce qu'on ne peut pas regarder dans l'esprit des gens, mais qui soulignent et qui mettent en forme ces processus à l'œuvre au moment de l'intégration d'une œuvre d'art, au moment où une communauté décide que oui, là nous faisons face à une œuvre qui est une œuvre que chaque société a ses formes d'art, et que nous sommes d'accord pour nous réunir autour de ces objets.
Ce n'est pas pour dire le musée égale la mort, c'est pour questionner cette idée de comment contenir des choses, comment contenir des œuvres, comment contenir des histoires, et qui décide qui est contenu, et pour qui est-ce que ça peut être fatal d'être dedans ou pas.
Un artiste mort jeune et qui se promenait avec un bâton, André Cadéré.
Oui, André Cadéret, ouais, c'est un artiste qui m'a beaucoup intéressé pour des questions. Bon, d'abord parce que j'étais jeune et que je regardais des artistes et qu'on apprend des autres. Et puis j'ai commencé à me servir un peu de son travail comme un programme dans certaines œuvres que j'ai pu faire, vraiment comme des disquettes. Et ce qui m'intéressait beaucoup chez Cadéret, c'est l'ambiguïté du personnage qui, dans les années 70, la question de l'œuvre d'art posée comme concept, en dehors de nous, comme quelque chose de justement non bavard, non narratif, non, était posée par beaucoup d'artistes de l'époque, de façon très radicale, comme ça. Et puis finalement, la génération qui est venue après a reposé les bases de quelque chose de plus bavard. Et j'aimais bien Cadéret parce qu'il était vraiment à cheval entre ces deux choses. D'une part, il a écrit ce statement extrêmement précis, philosophique, sur la question de l'erreur, sur la question de du discernement, des couleurs. Donc d'un côté, il écrit ce truc vraiment en disant qu'il pouvait voir l'ensemble de son œuvre achevée puisque c'était que suite à permutation et qu'il y avait une fin. Enfin, des choses très, très... un bloc comme ça. Et de l'autre côté, il était perçu comme l'artiste nomade, le mec qui se baladait, le flâneur, et il en jouait beaucoup, quoi. Il jouait vraiment des deux, quoi. Il se plaçait d'un côté sur ses hauteurs conceptuelles hard, dures, et de l'autre côté, il jouait. Donc il y a beaucoup d'anecdotes un peu drôles comme ça. Et donc ça m'a intéressé, cette espèce d'ambiguïté de perception entre déjà de lui-même et puis ce qu'on peut percevoir les autres. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un peu. C'est pour ça que j'ai fait une copie de Cadéret noir, ce qui est complètement non-sens, mais qui est une erreur grossière par rapport à son travail si on lit ses statements. Mais en même temps, en le nommant Black Spirit et en faisant une sorte de bâton vaudou de cet objet, je proposais quelque chose d'autre aussi. Enfin voilà. Donc c'est ça, Cadéret. Ça reste maintenant. Je fais beaucoup de choses d'autres, mais c'est vrai que ça a été un moment, une sorte de fantôme qui est venu habiter un peu mon travail, un esprit, quoi.
Oui, qui se promenait avec son œuvre.
Voilà, il se continue à se promener dans l'œuvre. Voilà, justement, c'est exactement ce que j'essaie de raconter. Hein. Ce travail m'a habité un moment, pas moins maintenant, mais c'est-à-dire que, bon, ça fait longtemps. Mais voilà, il commence à tourner dans mon esprit, je l'ai intégré, je l'ai digéré, je fais une action moi-même à partir de ce travail pour le regarder et je l'ai transformé pour qu'il devienne quelque chose d'autre. Voilà.
Oui, cette idée de recyclage est permanente. Enfin, plusieurs fois, vous dites...
Oui, alors je ne sais pas si c'est recyclage.
Vous avez dit le mot à propos
oui,
de...
Oui, il y a des choses qui sont recyclées. Mais c'est vraiment des choses de l'ordre de la digestion. Quoi, on se nourrit des choses, il faut les digérer, on les intègre, on les reconnaît, on a envie d'en remanger... c'est des choses comme ça qui me semblent... Mais recyclage, oui, après, c'est aussi des choses... Mais le fait d'inclure l'imaginaire de l'autre comme forme représentée dans le travail, c'est-à-dire d'avoir, d'être sûr de pouvoir inclure l'imaginaire de l'autre, son nom et son imaginaire, nourrit le travail et l'augmente. Donc j'ai toujours un nouveau fil sur lequel je peux me baser, qui est généré par ce travail, en tout cas par ces questions, par ces collaborations, qui sont aussi ce qui est représenté. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que je représente, c'est aussi ces collaborations, cet imaginaire qui vient d'un autre, en relation avec des choses que moi, je pose. Et ça, à cet endroit-là, se passe quelque chose qui est d'un autre ordre qu'une forme tautologique. C'est une forme augmentée. Il y a des mutations. Hein. Il y a des formes vraiment mutantes entre deux corps qui se rencontrent et qui commencent à produire quelque chose de... Et si je repars de là, je peux... Donc il y a quelques œuvres qui sont de deux, trois générations comme ça déjà. Voilà.
Nous étions partis de Frank Zappa et nous arrivons à Bill Mollison.
C'est parfait.
Et rappelez-moi votre nom.
Valentin Noiret. Moi, je suis français, j'étais donc à Amsterdam avant, et là, je viens d'emménager à Bruxelles pour l'occasion, mais aussi pour rester, je crois.
Pourquoi Bruxelles ?
Disons que la stérilité d'Amsterdam commençait à me peser un peu. Cette rigueur...
protestante ?
Peut-être. c'est une ville qui me tentait déjà depuis un moment, et c'est... Bah, cette opportunité d'exposition m'a convaincu de m'installer, quoi. Pour les prix aussi, évidemment. Et puis pour les scènes musicales et artistiques underground, bien plus actives ici. Que...
Et à vos yeux, l'industrie musicale, c'est quoi aujourd'hui?
C'est de la merde. je sais pas, enfin, disons que j'ai de plus en plus. Je vais presque que finalement maintenant voir des concerts qui s'écartent le plus possible de ce genre de business. Donc j'ai un avis assez tranché, à la fois lointain, dans le sens où je m'y frotte pas, quoi.
Made in France. La Verrière à Bruxelles, Jean-Luc Moulin en angle mort. Avec Guillaume Desanges, Jean-Luc Moulin, et les voix de Maud Narfin, Laurent Mignon, Audrey Cotin. Au Wills à Bruxelles, Sada Nafif, Parole. Avec Zoé Gray, Valentin Noiret et Sada Nafif. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. C'est de votre musique qu'on entend là?
Eh bien là, c'est mes amis musiciens, un peu c'est le crash test un peu aujourd'hui. On est en pré-vernissage et donc j'ai invité des amis à venir jouer. Et là, ça s'échauffe. Donc il faut d'abord qu'on trouve le texte qu'on va interpréter. Et puis on y va, quoi.
Je peux enregistrer ça?
Bah, bien sûr, allez-y.
On dirait du free jazz, possible?
C'est possible. On a un saxophoniste. Alors pour l'instant, il n'y a que...